Bonjour à tous, je suis Reinhardt, bienvenue dans ce deuxième épisode de Quick Save. Aujourd'hui au programme, nous allons parler de Kingdom Hearts 3 et de Nobuo Uematsu qui devrait faire son retour pour FF7 Remake, du retour de la NES Mini et des potentiels nouveaux épisodes Switch de Pokémon, de Ubisoft et Take-Two qui ont été très généreux en info par rapport à l'E3, de Call of Duty Black Ops 4 et de Microsoft qui dévoile une manette pour les personnes handicapées. C'est parti! Bon, eh ben, attaquons tout de suite avec Square Enix et entre autres Kingdom Hearts 3. Ça fait maintenant 12 ans que Kingdom Hearts 2 est sorti et les joueurs attendent impatiemment l'épisode 3 depuis maintenant de nombreuses années donc. Et c'est au cours d'une session de test à Los Angeles que les pros ont pu mettre les mains sur deux levels du futur Kingdom Hearts 3 qui approche à grands pas. Le jeu devrait normalement, d'après Tetsuya Nomura, être présenté un peu plus, ou en tout cas avoir un peu plus d'infos au cours de l'E3 pendant la conférence Square Enix. Donc le jeu se présente de plus en plus, ça approche de plus en plus pour tous ceux qui l'attendaient impatiemment. Vous pouvez continuer à croiser les doigts, mais je pense que vous avez pu aller croiser bien longtemps. Dans les annonces qui devraient être faites aussi pendant la conférence Square Enix, il n'est pas impossible qu'on entende parler d'une nouvelle IP, une nouvelle licence de la part de Square Enix, un certain Outrider, car Square Enix a fait le dépôt de cette marque auprès de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle. Donc on n'a aucune info sur le jeu, on ne sait pas de quoi il en retourne encore, quel style de jeu c'est, si c'est un RPG, un jeu de course, un FPS, peu importe. On n'en sait rien encore, mais voilà, on devrait en apprendre plus aussi certainement pendant la conférence à l'E3. Dans les infos qu'on devrait avoir aussi pendant la conférence Square Enix, il n'est pas impossible qu'on entende parler de FF7 Remake. J'en parlais au précédent épisode, j'attends des infos là-dessus. C'est un exercice difficile pour Square Enix que de retoucher un monument qui est Final Fantasy VII. Enfin, dans l'univers vidéoludique, en tout cas, c'est un monument. Hein. C'est le Final Fantasy préféré de beaucoup de personnes. C'est aussi pour beaucoup celui avec lequel ils ont découvert les Final Fantasy. Et on en a eu l'annonce il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Justement à l'E3, 3 ans je crois, c'était à l'E3 2015. C'est pas impossible qu'on en revoie un petit peu plus, et en parlant d'FF7 Remake justement, il y a, alors excusez-moi pour les noms japonais, c'est jamais facile à prononcer, Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi, qui sont respectivement producteurs et responsables du développement de Final Fantasy VII Remake, qui ont laissé sous-entendre que Nobuo Uematsu, justement le compositeur mythique des Final Fantasy, serait de retour pour cet épisode. C'était déjà lui qui avait signé la bande-son du premier Final Fantasy VII, l'épisode original. Donc du coup, il devrait être aussi impliqué dans les musiques du remake. Il avait fait toutes les musiques des Final Fantasy jusqu'au 10 au moins de façon sûre. Je sais qu'il s'était un peu éloigné de Square pour partir sur d'autres projets un peu plus éloignés justement de production Square Enix, bien qu'il restait quand même pas très loin, mais il était beaucoup parti sur d'autres projets après Final Fantasy X, et donc voilà, il se pourrait fortement qu'il revienne pour le FF7 Remake. Ça n'a pas été confirmé, mais ils l'ont laissé fortement sous-entendre. Justement, Yoshinori Kitase, pardon, et Naoki Yamaguchi, ils ont délivré ces infos au cours d'une interview qu'ils ont donnée dans un journal japonais. Et donc, outre l'info du retour de Nobuo Uematsu, dans cette interview, ils parlent aussi d'une date de sortie pour 2023. Alors, il y a eu l'annonce, il y a quelques temps de ça, comme quoi Final Fantasy VII Remake paraîtrait en plusieurs épisodes, un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait avec Final Fantasy XIII, qui était sorti en trois épisodes, avec le Versus XIII et Lightning Returns. Du coup, est-ce que 2023, ça sera la date de la... où tous les épisodes du FF7 Remake seront sortis? Ça, on ne sait pas, mais ça me paraît bien éloigné si c'est juste pour le premier épisode, la première partie de FF7 Remake, une sortie en 2023... Sachant que ça a été annoncé il y a 3 ans, ça ferait 8 ans de développement pour une partie, ça ferait quand même très très long, donc ça serait étonnant. Mais bon, un développement de 8 ans, c'est déjà eu à arriver, hein, donc c'est pas impossible non plus. Donc on verra si on en apprend un peu plus ou pas pendant la conférence Square Enix de l'E3 qui se promet fort intéressante. Parlons maintenant de Nintendo et... de la Pokémon Company aussi, Nintendo dans un premier temps. Après avoir vendu 2,3 millions de NES Mini il y a un an et demi de ça, à l'époque où ils l'ont sorti, ça a fait un succès planétaire, ça s'était vendu comme des petits pains et c'était très très vite tombé en rupture de stock. Nintendo a annoncé qu'elle revient à partir du 29 juin, ils revendent des NES Mini, parallèlement du coup au Super NES Mini qu'ils ont commercialisé par la suite et qui, je crois, sont toujours en vente. Elle devrait revenir théoriquement au prix de 60€, qui, si je me souviens bien, était le même prix que lors de la première fournée de NES Mini qu'ils avaient fait, avec à supposer toujours les mêmes jeux dessus, donc pour tous les nostalgiques de l'époque. Vous retrouverez les trois premiers Mario, les deux premiers Zelda, Punch-Out, les deux premiers Castlevania, pardon, Metroid, Kid Icarus, Mega Man 2, etc. Il y a une liste de 30 jeux en tout dessus, donc il y a de quoi faire. Des fonctionnalités qui vous permettent de pouvoir sauvegarder votre partie n'importe quand, qui n'était pas possible à l'époque, donc... ça peut aussi faciliter l'avancée dans certains jeux comparé à ce que c'était à l'époque, et ça peut permettre aux plus jeunes de découvrir justement ces titres qui ont bercé l'enfance des plus vieux, et qu'ils n'ont certainement pas forcément eu l'occasion de pratiquer. En début de semaine, du côté de la Pokémon Company, il y a eu du mouvement, il y a eu un leak qui aurait laissé fuiter... les potentiels noms du futur Pokémon à venir sur Switch. On savait qu'il y avait un Pokémon RPG qui était prévu sur Switch. On savait pas encore exactement de quoi il en retournait. On savait pas si ça allait être des épisodes canoniques de la série ou des épisodes plus annexes. En l'occurrence, le leak indiquerait le nom... en tout cas de ce qui serait pas un mais deux épisodes, donc un schéma plutôt similaire aux épisodes canoniques de la série. Il s'agirait de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Un peu plus tard dans la semaine, Nintendo a fait le dépôt de deux noms de domaine aux États-Unis, à savoir justement PokémonLet'sGoPikachu.com et PokémonLet'sGoEvoli.com. Donc ça corroborerait le leak. Après, on ne sait pas encore pareil, exactement de quoi il s'agit. La personne qui a laissé fuiter ces infos a indiqué aussi que soi-disant le jeu serait un remake de Pokémon Jaune. Donc de la première génération, ça serait un peu étonnant parce que ça serait du coup le deuxième remake qui ferait de la première génération, ils avaient déjà fait Rouge Feu et Vert Feuille. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Par contre, ce qui risque de faire évincer pas mal de danse, et ça le laisse un peu s'entendre dans le nom justement de ces deux épisodes, c'est le Let's Go qui fait un gros appel du pied à Pokémon Go qui a rencontré le succès qu'on lui connaît sur mobile l'été dernier. Et a priori, le système de capture, entre autres, pourrait être repris justement de Pokémon Go. Donc, quid du système de combat traditionnel de Pokémon qu'on connaît depuis des années et des années, s'ils nous sortent un système de combat plus, enfin de combat et de capture plus aléatoire et plus basé sur la chance, comme dans un Pokémon Go, je pense que ça risque de faire grincer beaucoup de dents. Et je pense qu'il y a du monde qui va râler. Donc, pareil, on en saura plus certainement au Nintendo Direct qui devrait se tenir, bah pareil, en courant de l'E3 toujours. Ça change pas à ce niveau-là. Si vous êtes plutôt adepte de gros moteurs, de courses endiablées sur route ouverte, réservez votre période du 31 mai au 4 juin, si vous êtes sur PS4, Xbox One ou sur PC, car Ubisoft a annoncé les dates de la bêta fermée de The Crew 2. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire. Faudra vous rendre sur thecrewgame.com/bêta. Ils ont annoncé que la bêta donnerait accès au premier palier de progression. Il y a quatre disciplines, le street race, le rallye, le powerboat, donc course de bateau, et les air race, donc course d'avion pour le coup, qui s'étaleront, pardon, dans la totalité des États-Unis. Le jeu est annoncé pour le 29 juin, donc ça laisse encore un peu un mois avant la sortie, mais voilà, si vous voulez vous y tester sur la bêta, allez-y, foncez. Si c'est aussi bon que le premier, si vous êtes fan du genre, vous ne devriez pas être déçu. Ubi, toujours, a annoncé leur rapport financier, hein, c'est la période. Dans ce rapport financier, ils ont dévoilé que pour la période fiscale à venir, ils auraient 3 AAA à sortir sur cette période-là. Sur ces 3 AAA, on en connaît déjà un, donc The Crew 2, qui sortira donc le 29 juin. Le deuxième, du coup, où ça lui confirme une fenêtre de sortie, entre guillemets, c'est The Division 2. Il a été annoncé au mois de mars dernier. Il n'y a pas de période de sortie, de fenêtre de sortie d'annoncer encore jusque-là. Du coup, ça nous apprend au moins qu'il devrait sortir avant le mois de mars prochain. C'est déjà ça. Pour tous ceux qui ont apprécié le premier, vous aurez moins de 12 mois à attendre avant de pouvoir mettre les mains sur le 2. C'est déjà une bonne nouvelle. Et quant au troisième titre, c'est un titre mystère. On avait Skull and Bones qui était attendu par pas mal de gens qui avaient apprécié toute la partie navale du Assassin's Creed Black Flag. Et ce Skull and Bones était développé par la même branche de chez Ubisoft, c'est le studio indonésien, si je me trompe. Non, Singapour, pardon. C'est Ubisoft Singapour qui développait la partie navale du Assassin's Creed Black Flag, qui du coup faisait, enfin, ils font toujours d'ailleurs, Skull and Bones. Et dans ce rapport fiscal, ils ont annoncé que Skull and Bones sera décalé pour le prochain exercice fiscal, donc dans la période 2019-2020. Donc du coup, le troisième titre en question, ça pourra pas être Skull and Bones, le troisième triple A. Faudra peut-être miser sur un Splinter Cell, vu comme je le disais dans l'épisode précédent, dans le Ghost Recon Wildlands, ils ont fait faire une petite apparition à Sam Fisher, le héros de Splinter Cell. Donc c'est pas impossible que ça soit pour essayer de ramener un peu la série sur le devant de la scène en vue d'en présenter un nouvel épisode. Ça sera auprès de la conférence Ubi, pour le coup, à l'E3, qu'il faudra se tourner pour avoir des infos de ce côté-là. Comme le laissait supposer tout le teasing mis en place la semaine dernière par Bethesda, Rage 2 a été officiellement annoncé dans un teaser très très coloré, très penché, pardon, action. Et ça nous a permis de voir un petit peu du gameplay de ce FPS post-apo complètement déjanté, qui sera la suite logique de Rage 1. Rage 1 qui était développé par id Software, ils sont bien évidemment aux commandes pour ce second épisode. Ils se sont associés par contre pour ce deuxième opus avec Avalanche Studio, qui sont les développeurs des Just Cause et de Mad Max. Donc autant dire que voilà, Avalanche, c'est un studio qui est habitué au monde ouvert de bourrin avec de grosses explosions. Donc je pense que ça devrait se sentir dans le Rage 2, en tout cas déjà dans le trailer. Ça se sent bien, ça a l'air très très bourrin, très très jouissif niveau gameplay, ça a l'air assez cool. Donc on verra si pareil, toujours E3, si on en aura des infos à l'E3 pendant la conférence Bethesda pour le coup. Ça devrait sortir sur PS4, pardon, PC et Xbox One. Take-Two qui est propriétaire à la fois de 2K Games et de Rockstar Games, a édité via 2K les trois premiers opus de Borderlands, donc Borderlands 1 et 2 et The Pre-Sequel, qui avaient été développés par Gearbox, et c'est par le biais justement de Randy Pitchford, le boss de chez Gearbox, qu'on apprend que malheureusement Borderlands 3 ne sera pas présent à l'E3 cette année. C'est un peu dommage pour tous ceux qui l'attendaient, mais est-ce que justement l'annonce, enfin l'officialisation de Rage 2, qui a un monde assez similaire, y est pour quelque chose? C'est tous les deux des jeux en monde ouvert. Enfin, assez ouvert en tout cas, tous les deux des FPS, tous les deux sur une ambiance post-apo, tous les deux très déjantés, donc c'est pas impossible qu'ils aient préféré délayer un petit peu l'information et la sortie de Borderlands 3 pour éviter de se retrouver avec un concurrent direct qui joue sur le même terrain. Parallèlement à ça, Take-Two donc a fait comme les copains, il a dévoilé son résultat financier pour la période fiscale 2017-2018. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est la période. Et on trouve justement dans ce rapport une annonce sur un report d'une grosse licence de 2K. Donc forcément, on se doute bien que justement il s'agit du Borderlands 3. On le sait en développement depuis 2015, hein, le Borderlands 3. Donc, à voir quand c'est que ça arrivera. De l'autre côté de chez Take-Two, comme je le disais tout à l'heure, c'est Rockstar. Forcément, quand on pense Rockstar, on pense GTA. Et dans cette période de bilan financier, les actionnaires sont allés interroger Strauss-Zelnick, qui est le PDG de chez Take-Two, pour avoir un avis sur justement la grande mode du moment, à savoir les Battle Royale, donc à savoir s'il y aura un Battle Royale dans GTA ou pas. Et Zelnick leur répond tout simplement que c'est pas en copiant les concepts des autres qu'on crée de grandes licences. Et il dit, je cite, je pense que si quelqu'un transforme son activité pour suivre les grands succès des autres et espère ne pas être à la seconde place, il se trompe. Il faut rester à la première place. C'est notre travail d'innover constamment et le plus souvent, cela a mené au succès. Les grands hits sont par nature inattendus et leur moteur d'innovation. Et leur moteur est l'innovation et pas les dérivés. Donc, du coup, clairement, il explique hein, qu'il préfère être créateur de mode plutôt que suiveur. Et jusqu'ici, on peut pas dire que ça l'aurait pas réussi, hein, parce que GTA V approche à grands pas de la barre des 100 millions de ventes, palier symbolique hein, qui a été atteint au jour d'aujourd'hui uniquement par Tetris et Minecraft, avec respectivement 170 et 100, 144 millions d'exemplaires vendus. Donc voilà, ils sont à 95 millions d'exemplaires vendus et ils ne vont pas avoir de mal à atteindre les 100 millions. Donc pas de Borderlands 3, pas de Battle Royale pour GTA, et puis bah, il n'y aura rien d'autre en dehors des épisodes annuels de 2K pour la conférence. Pardon, les épisodes. Les épisodes annuels de sport, hein, évidemment. Hein. NBA 2K, WWE 2K, ça sera les seules choses présentées par Take-Two pour cette E3 cette année. Il sera pas très riche en nouveautés de leur part de ce côté-là, en tout cas. Bosquet Productions, c'est terminé. Le studio derrière Lawbreaker et Radical Heights ferme ses portes. Et c'est Cliff Bleszinski, le créateur de la série Gears of War, et qui avait créé le studio il y a 4 ans, qui l'a annoncé. Lawbreaker a eu du mal à trouver son public. Le studio a eu du mal à décoller. Ils venaient juste de sortir l'alpha de leur Battle Royale, Radical Heights. C'est un peu malheureux, hein, toujours de voir une fermeture de studio. Cliff Bleszinski, en plus de ça, a annoncé qu'il se retirait du monde du jeu vidéo pour un temps, en tout cas. Donc, étant le papa de la série Gears of War, c'était quand même une personnalité dans le milieu. Donc, il a annoncé, voilà, se retirer pour un certain temps, pour réfléchir un peu sur tout ça, se recentrer sur lui et sur sa famille, entre autres. Donc c'est pas impossible qu'on le voie y revenir dans quelques mois, quelques années, mais en tout cas pour le moment faudra faire sans lui. Et par contre le lendemain de l'annonce, il a partagé sur Twitter, il a partagé plusieurs concept art et concepts de jeux qu'ils avaient dans les tiroirs et qui bon malheureusement ne verront jamais le jour, hein, du coup à moins que ça soit repris par d'autres studios, mais je doute un peu. Il y a trois concepts qu'il a partagé sur Twitter avec une brève explication à chaque fois du concept de chacun et des concept art qui pour le coup sont assez sympas pour la plupart. Il y avait un certain enfin à chaque fois c'est des noms de code, hein, c'est pas les noms finaux des jeux. Mais il y avait le premier qui avait comme nom de code Dragonfly, qui avait l'air assez original pour le coup. C'était des combats féodaux, steampunk, de ninja samouraï dans des vaisseaux qui chevauchent des dragons pour aller casser du zombie. Voilà, c'est assez inédit comme genre de concept, ça aurait pu être assez sympa. Il y en avait un autre qui s'appelait Rover qui était prévu pour de la VR, qui était du combat de robots, des gros robots bipèdes a priori, de ce qu'on en voit sur les concept art, qui aurait été plus pensé pour du multi avec 5 équipes de 5 qui s'affronteraient. Oh là, j'ai du mal. Il y a un dernier un peu plus mignon qui est beaucoup plus coloré aussi, prévu pour de la VR aussi, qui avait comme nom de code Donuts. Alors pour le coup, il n'était pas à manger, mais il le résumait comme un Mario Kart sur l'eau avec de la VR et des animaux. Pour le coup, c'est Détroit, c'est celui qui m'avait l'air le moins palpitant, le moins intéressant. Ça avait l'air assez joli, assez coloré, mais bon, je pense que Détroit, c'était le concept peut-être le moins intéressant, le moins original, je pense surtout. Toujours est-il que bon, on verra jamais le nez de ces jeux, on n'en gardera que ces esquisses, et puis voilà, hein, on n'en aura pas plus. Est-ce que, d'après vous, ces jeux auraient pu trouver un public Perso, ça aurait été à voir comment ça aurait été fait, mais les concepts auraient eu le mérite d'être assez originaux, pardon. Surtout pour le Dragonfly, je pense que ça aurait pu déboucher sur quelque chose de potentiellement sympa. Petite brève en aparté, pour tous les possesseurs de Divinity Original Sin 2, l'Ariane Studio va réitérer la même chose qu'ils avaient fait pour le premier opus d'Original Sin, à savoir que la définitive édition sera gratuite sur PC pour ceux qui possèdent le jeu de base. Donc pas besoin de racheter le jeu pour profiter de la définitive édition. Ça apparaîtra automatiquement dans votre bibliothèque Steam si vous l'avez sur Steam. C'est toujours le genre de petits gestes de développeurs qui est toujours appréciable. Et du coup, voilà, si vous tardez de profiter de cette définitive édition, Vous inquiétez pas, ça arrive. Attaquons-nous maintenant au gros morceau de cet épisode. Une étude de True Achievement, un site de statistiques, a montré un rapport sur le rapport qu'ont les joueurs Xbox 360 et One avec les modes solo des jeux qu'ils achètent en se basant sur l'obtention des succès justement de fin de campagne, succès que vous obtenez une fois que vous avez fini le mode histoire de vos jeux. Les chiffres pardon, sont assez surprenants, même pour les titres purement solo. Le plus gros pourcentage de complétion est atteint sur la série des Mass Effect. Alors ils ont les chiffres par licence, enfin par série plutôt que par épisode complet pour les titres purement solo. Donc les Mass Effect seraient les jeux les plus terminés où il y a le plus de joueurs qui aient terminé l'histoire sur les consoles de chez Microsoft en tout cas hein, c'est, je le rappelle ça prend que les chiffres de Xbox 360 et Xbox One. Donc c'est pas représentatif de tout le panel de joueurs qui aiment, ça peut donner déjà une bonne idée. Donc 50% pour les Mass Effect et après ça va en descendant, en passant par les BioShock, Gears of War, les Fallout, j'en passe des belles et des meilleures. Ça m'a personnellement pas mal étonné. Ils ont fait un autre tableau de chiffres à côté avec plus précisément les chiffres des Call of Duty qui ont enfin le pourcentage de complétion des modes campagne sur les Call of Duty. Et là c'est je dirais pas que ça rase les pâquerettes mais pas loin hein, parce qu'on passe difficilement la barre des 25% des gens qui bouclaient les campagnes solo sans dépasser les 30% de complétion depuis Black Ops 2. Donc depuis Black Ops 2, il n'y a pas plus de 30% des joueurs qui ont fini les campagnes solo. Et du coup, c'est pas impossible que ce genre de statistiques, il l'ait fait aussi chez Treyarch, le développeur de Black Ops 4, parce qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de mode histoire dans justement Call of Duty Black Ops 4. Donc ça en fera. Ça fait déjà depuis cette annonce réagir pas mal de monde. Et ça va faire grincer des dents, je pense, un bon moment. Treyarch a annoncé qu'ils allaient distiller l'histoire dans les autres modes de jeu multi, hein, pour le coup. Mais voilà, que l'histoire soit distillée dans ces autres modes de jeu. Et dans les autres modes de jeu, justement, il y aura bel et bien, comme on s'en doutait un peu, comme le disait la rumeur, un mode Battle Royale dans ce Call of Duty Black Ops 4, qui est baptisé Blackout. Il devrait voir s'affronter les joueurs sur la plus grande map jamais conçue par la série, hein, de ce qu'ils ont annoncé, avec plein de véhicules terrestres, aériens, maritimes. C'est pour le coup les grandes maps et les véhicules, c'était plus du côté de chez Battlefield en général qu'il fallait aller les chercher. Du coup, on va voir comment Treyarch gère cette grande map et si ça sera aussi plaisant à jouer. Après, là-dessus, je m'inquiète pas grandement quand même, c'est quand même des gens d'expérience chez Treyarch. Dans les autres modes de multi, parce qu'il n'y aura pas que le Battle Royale, hein, fort heureusement, il y aura le mode zombie qui sera encore une fois de la partie, hein, ça devient une religion dans les Call of Duty, le mode zombie, c'est habituel, il faut son mode zombie à chaque Call of Duty. Il y aura pour le coup trois maps dédiées à ce mode de jeu, avec trois ambiances très distinctes. Il y a eu trois trailers justement pour montrer les trois maps. La première, et qui est celle qui m'a le plus posé d'interrogation, c'est une map très typée Rome antique, Peplum, tout ça. Donc je trouve ça un peu étonnant pour du Call of Duty. En période Peplum, faudra m'expliquer, ça va être du combat à l'arme blanche pour le coup, uniquement. Il n'y a pas d'arme à feu à l'époque Peplum. Donc ça me paraît étonnant pour un Call of Duty, mais bon, ma foi, pourquoi pas. La deuxième map serait sur le Titanic, où de ce qu'on en comprend dans la vidéo, l'équipe de personnages essaye d'aller récupérer le contenu d'un coffre pour récupérer une relique. Relique qu'on retrouve d'ailleurs dans chacun des trois trailers, hein, qui est apparemment celle qui justement transforme les gens en zombies, qui seront donc les zombies que vous devrez affronter. Voilà, deuxième map sur le Titanic. Et la troisième map, pour le coup, on en a très très peu vu, c'est de ce qui a été dit, apparemment ça serait une map classique remise au goût du jour. Donc je suis pas du tout un expert des Call of Duty, donc certainement parmi vous il y aura des gens qui seront contents de retrouver c'est une vieille map, mais je saurais pas vous dire d'où elle vient ni le nom qu'elle a. Il faudra attendre un peu pour avoir un peu plus d'infos de ce côté-là. La petite dernière info par rapport à Call of Duty Black Ops 4, et pareil, ça avait fuité la semaine dernière, il sera bel et bien sur PC. Uniquement sur le launcher Battle.net, le launcher de chez Blizzard Activision. Pas de dispo sur Steam, donc ça sera la première fois depuis que la licence est sur PC qu'elle ne sera pas sur Steam. Donc c'est un changement assez. Enfin, c'est un cap, hein, passé pour la licence. À voir si ça changera beaucoup les habitudes des joueurs. Personnellement, je pense pas. Le launcher de chez Battle.net étant quand même un launcher de qualité, devrait pas y avoir de soucis avec ça. Par contre, je pense qu'on peut parier beaucoup sur le fait que après Destiny 2 et Call of Duty Black Ops 4, du coup, on voit y arriver d'autres titres de chez Activision sur le launcher Battle.net. Vu que maintenant Blizzard Activision pardon, étant relié, enfin étant la même entité, le launcher Battle.net il va plus être uniquement réservé aux jeux Blizzard et va s'ouvrir, je pense, de plus en plus au catalogue d'Activision. Donc il y a fort à parier qu'on retrouve de plus en plus de gros titres, en tout cas au moins d'Activision sur ce launcher. Son design avait fuité en début de semaine, elle aura pas tardé à être confirmée par Microsoft. Une nouvelle manette sort à destination de la Xbox One et du PC. Mais n'en déplaise à tous les amateurs de manettes un peu personnalisées ou des trucs comme ça, c'est pas du tout à vous que cette manette-là s'adresse, c'est une manette à destination des personnes handicapées. C'est un grand pavé blanc avec deux énormes boutons A et B, une grosse croix directionnelle et le bouton Home enfin Xbox. Et cette manette, ils l'ont annoncé, profitera de tout ce que peut bénéficier une manette classique niveau fonctionnalité, donc que ce soit la connectivité sans fil, le Bluetooth, il y aura une connectique USB dessus, une prise casque, mais à la différence justement d'une manette classique, il y a 19 prises jack en haut de ce grand rectangle là, en haut de la manette. C'est ce qui étonne un peu au premier regard, mais c'est ce qui permettra justement aux personnes handicapées de pouvoir brancher dessus des différents commutateurs, différents périphériques, type joystick, pédale au pied, ou trucs comme ça, pour pouvoir adapter justement la manette à leurs besoins. Et en fait, ces 19 prises jack correspondent aux 19 touches de la manette. Et ça permettra aux personnes en handicap physique de pouvoir se créer une manette, entre guillemets, pour pouvoir jouer en fonction de leur handicap et de leurs possibilités. Chose qui n'était pas aisée, pas impossible, mais absolument pas aisée jusque-là. Ils étaient obligés de bidouiller des trucs. Enfin voilà, c'était plus du bricolage que vraiment une solution apportée par les grands constructeurs. Là, du coup, ils vont avoir quelque chose de compatible nativement, Et en plus de ça va leur ouvrir un peu le monde console, parce que jusqu'alors, ils étaient plus du coup cantonnés au monde PC, où il était plus simple de bricoler quelque chose pour pouvoir jouer en adaptant justement les manettes, les joysticks, tout ça à leur handicap. C'était plus simple à faire sur PC, sur console c'était compliqué encore jusqu'à maintenant. Microsoft, du coup, ben voilà, leur donne de nouvelles possibilités et leur ouvre de nouveaux horizons. Et ça, je trouve ça assez cool. La manette en plus est bon, un petit peu plus chère qu'une manette normale, mais pas inabordable non plus, hein. Elle sera vendue au tarif de 99 € sur le Microsoft Store d'ici la fin de l'année. Ils ont dit qu'ils en montreraient un peu plus à l'E3, pareil pendant la conf Microsoft. Il n'y a pas grand-chose de plus, je pense, à en apprendre de cette manette que ce qu'ils en ont montré et annoncé déjà. Bon, ça reste une manette, hein, il n'y a pas des myriades de possibilités non plus à faire après, outre ce qu'ils ont montré. Mais en tout cas, la démarche est assez cool, en attendant de voir si, de son côté, Sony réagit. Dans le même sens et propose aussi quelque chose de similaire pour pouvoir jouer sur PlayStation 4 plus facilement, justement pour les personnes handicapées aussi, vu que voilà, cette manette-là c'est pour la One et pour le PC, donc niveau des jeux PS4 pour les joueurs handicapés ça va être encore compliqué, mais voilà, à voir si peut-être Sony se met en défense et propose quelque chose de similaire de son côté à l'E3 ou un peu plus tard dans l'année. Et on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'ai changé un petit peu ma façon de faire comparé au premier épisode pour tester différentes choses. Donc, si vous avez des commentaires justement par rapport à l'émission, par rapport au sujet abordé, ou des retours, des critiques constructives, hein, de préférence, n'hésitez pas à laisser votre message dans la section commentaires sur le site ou sur le Twitter, sur le Facebook, sur le SoundCloud, sur iTunes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission sur toutes ces plateformes. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas non plus à parler et à partager l'émission pardon, autour de vous si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous avez trouvé ça utile. Ça m'aidera à faire connaître l'émission et à la partager à plus de monde aux alentours, et ça pourrait être qu'une chose positive pour la continuité de l'émission. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes parties. Ciao!